On va ouvrir la parole de Dieu dans le second livre des rois. J'ai à cœur de partager ce texte de l'Écriture au chapitre 4 du second livre des rois. Quand Dieu s'adresse aux hommes, il s'adresse à tous, c'est d'accord. Mais vous êtes aussi d'accord que Dieu s'adresse à nous, personnellement, individuellement. Alors ce matin, on est dans cette notion que Dieu parle à tous, Dieu parle aussi à chacun. Dieu vous parle, Dieu me parle, Dieu te parle. Et ce, au travers de la lecture du texte que nous faisons maintenant, dans le second livre des rois, au chapitre 4, et au verset 1er. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à l'Éternel en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. » Il est probable que nous connaissions, nous aussi, des temps d'épreuve comme cette femme. Quelqu'un a dit, et cela m'a fait plaisir quand je l'ai entendu, quelqu'un m'a dit que c'est lors des jours de mauvais temps que l'arc-en-ciel de la grâce est le plus visible. Dans la vie chrétienne, la nôtre, nous sommes appelés à expérimenter l'arc-en-ciel de Dieu quand tout va mal, comme cette femme. Avec le Seigneur, l'expérience nous fait dire, et l'expérience me fait dire, qu'il y a toujours, dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, il y a toujours des temps heureux, des temps où les interventions de Dieu ne manquent pas. On a des exemples dans l'Écriture. Hein. Par exemple, lorsque les Israélites sont allés au désert. Hein. C'est pas agréable, le désert. Hein. Tant que je sache, c'est pas du tout agréable. Eh bien, au désert, nos bien-aimés ont vu la gloire miséricordieuse de Dieu, qui leur a accordé journellement le pain du ciel et l'eau du rocher. Donc dans le désert, ils n'ont pas été oubliés. Dieu a pris soin d'eux. Dieu les a nourris. Dieu les a abreuvés. La veuve de notre récit est plongée dans une affliction profonde. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Dieu, dans sa grâce, nous connaissons le récit, Dieu, dans sa grâce et dans sa toute-puissance, va pourvoir aux besoins de cette femme. Mais je ne voudrais quand même pas aller trop vite. Très détaillé, parce que je pense que l'Esprit Saint a des choses à nous faire voir ici. Je voudrais détailler ce passage. Je me suis arrêté dans un premier temps sur le cri de détresse de cette femme. C'est un cri qui fait mal. C'est un cri dont on a du mal à supporter. La teneur de ce cri vous prend dans les entrailles. Voici ce qu'elle dit. Le créancier est venu prendre mes deux enfants, tout ce qui me reste, et il veut en faire des esclaves. Oui, son mari est mort. Il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus d'argent. Elle est plongée, tenez-vous bien, dans les dettes. On dirait, aujourd'hui, elle est surendettée. Elle est surendettée. Elle est endettée de manière excessive par rapport à ses ressources, ressources qu'elle n'a pas. Elle n'a rien à la maison. Du moins, elle n'a plus rien. Parce que je pense qu'elle avait du temps de son mari quand même quelques mobiliers. Mais il a fallu s'en défaire. Il a fallu les vendre. Il fallait bien survivre avec la famille. Il ne lui reste plus que ses enfants. Quel état pitoyable. Je n'ai pas le droit de passer sous silence l'état de cette femme parce que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. C'est un récit biblique. Il y a là une parole de Dieu et je dois y faire excessivement attention. Alors cette femme a le ressort de s'adresser à l'homme de Dieu et voici ce qu'elle lui dit. Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. L'homme de Dieu écoute, il analyse excessivement vite et il dit à cette femme, « Que puis-je faire pour toi ?» C'est une offre de grâce. Que puis-je faire pour toi ? Élisée, l'homme de Dieu, entrouvre la porte des privilèges célestes. Sans doute qu'Élisée sait, du moins s'il ne l'a pas lu, il le sait intuitivement, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et que cette bénédiction n'est jamais suivie de regrets ou de chagrin. Elle peut demander ce qu'elle veut. C'est son privilège. C'est aussi le nôtre. Elle peut demander ce qu'elle veut. Nous avons vu. Elle n'a plus rien. Plus rien à la maison. Elle n'a qu'un vase. Un vase. Un vase d'huile. Et je me suis dit, et je vous le dis, parce que c'est bien de le savoir, la pauvreté, quelle qu'elle soit, ici elle est matérielle, mais il y a d'autres pauvretés, la pauvreté n'a jamais été un obstacle à l'intervention divine. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que Dieu n'intervient pas. Dieu intervient toujours. Je me souviens, dans l'Évangile, de ce pauvre mendiant. De ce pauvre mendiant, oui. Il se nomme Bartimée. Il est aveugle. Donc, il a connu vraiment toutes les difficultés de la vie. Et lui aussi, il va s'adresser à l'Élysée, l'élu de Dieu, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui poser la question, mais que veux-tu que je fasse? Comme pour cette veuve, que puis-je faire pour toi? Alors, on sait que cet homme aveugle va recouvrer la vue et il va retrouver certainement une position dans la vie. Notre Dieu, mes frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de proximité. Il est un Dieu présent. On a vu vendredi soir qu'il était avec nous, hein. On a vu également qu'il était en nous. Et je crois qu'avec ce Dieu-là, nous possédons toutes les clés pour être bénis. J'ai réfléchi, je lisais tout dernièrement dans le livre de Job, et j'ai réfléchi à ce que Job dit à un moment donné, et je l'ai pris parce que je trouve que ça va fort bien avec ce passage. Job dit, « Tu fais encore à mes dépens des exploits étonnants. » C'est pas formidable ça. « Tu fais à mes dépens des exploits étonnants. » Oui, avec Dieu, il est toujours possible d'envisager des miracles. Avec Dieu, il est toujours possible d'envisager des exploits. Alors, il y a cette préparation, Élisée, c'est un homme méthodique, mais je pense aussi que l'Esprit Saint est quelqu'un de méthodique. Alors, il y a une préparation qui est indispensable au miracle. Et voici ce que Élisée dit à cette femme. Il lui dit, tu vas sortir de ta maison. Tu vas demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Dans sa situation, cette veuve n'a pas de place pour la bénédiction que Dieu veut lui accorder. Quand je dis qu'elle n'a pas de place, elle n'a pas de récipient. Donc, elle a besoin des autres. Elle a besoin de ses voisins. Et je voudrais vous dire par cette image que nous aussi, nous avons besoin non pas de nos voisins, mais nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs, nous avons besoin de l'Église. Ça, c'est un principe divin. Si nous pensons que nous pourrons vivre notre vie chrétienne seule, isolée, on se leurre. On se trompe. On a besoin de l'Église. On a besoin de ses frères. On a besoin de ses sœurs. On a besoin de leur affection. Mais on a aussi besoin de leur aide, de leur intercession. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai obtenu de Dieu des grâces parce que l'Église s'est mobilisée et a prié pour moi. Et vous savez vous-même, que certaines bénédictions, vous les avez obtenues parce que vous avez eu recours à vos voisins, non, à vos frères, à vos sœurs, qui ont prié et vous avez reçu de Dieu. Mais Dieu s'est servi d'eux. Alors puissiez-vous toujours vous en rappeler. Aller emprunter des vases vides fut pour cette veuve une occasion d'exercer sa foi. Parce qu'il fallait le faire, hein. Il fallait le faire. Aller dire, Madame Attel, voulez-vous me prêter un ou plusieurs vases? Et vous allez se dire, mais est-ce qu'elle va nous les rendre? Et puis voilà, elle est allée dans le quartier, hein, et puis elle a ramené le plus de vases possible, et il fallait exercer la foi. Mais cette femme crut à la parole du prophète. Elle crut à la parole de Dieu. Parce que derrière le prophète, il y a bien sûr l'intention de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, elle crut à la parole de Dieu. Et l'on voit que sa foi va être récompensée. La foi est toujours récompensée. L'Écriture nous dit, n'est-ce pas, que la foi est toujours récompensée. Quand la foi est bien placée, elle est toujours récompensée. Alors, on a lu ceci à partir du verset 5. Elle ferme la porte sur elle et sur ses enfants. Alors, les enfants lui présentaient les vases, elle versait, et les vases furent tous remplis. Ce fut certainement un grand moment dans la vie de cette femme. Lorsqu'elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. Elle ose, seule devant Dieu, elle ose réclamer l'accomplissement de la promesse de l'homme de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce que Jésus nous demande de faire. Quand il nous dit, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que tu le fais? Est-ce que je le fais toujours? Les fils présentent les vases. Et au miracle, Dieu est en train de les remplir. Sa foi, sa simple foi est récompensée. Et puis, il n'est pas un seul vase qui ne soit rempli. Tous sont remplis. Et je pense que ce fut un moment de bonheur. Un moment de bonheur. Elle a assisté, elle a été témoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui me chagrine. Non, il y a quelque chose qui me fait mal là. Écoutez bien, c'est important. Il y a, quand le dernier vase est rempli, il y a un obstacle à la bénédiction. Vous connaissez l'obstacle? Réfléchissez, hein. Dieu nous donne de l'intelligence, il faut réfléchir. Réfléchissez. L'obstacle à la bénédiction, c'est que il n'y a plus de vase. Parce que s'il y en avait eu 10, 20, 30, 40 de plus, ils auraient, comme les précédents, ils auraient été tous remplis. Il n'y a plus de vase. L'huile s'arrête. Oh là. Alors, quelle leçon devons-nous tirer de ce passage des Écritures? Parce que les Écritures nous ont été données quand même pour notre instruction. Quelle leçon tirer? Moi, je tire personnellement deux leçons et je les partage très, très simplement avec vous. La première leçon, c'est que lorsque la bénédiction s'arrête, lorsque l'on a l'impression de ne plus être béni du Seigneur, et ça nous est arrivé, n'est-ce pas, d'avoir le sentiment que nous ne sommes plus bénis de lui, eh bien, lorsque la bénédiction s'arrête, ce n'est jamais à cause du Seigneur. L'obstacle est toujours de notre côté. Le texte m'autorise à vous le dire. D'autres passages et l'expérience également. La deuxième chose que je constate, c'est que lorsque notre faiblesse spirituelle laisse la place à l'autosatisfaction, il est de toute évidence que l'huile se heurte à un obstacle qui l'arrête. Le problème de toujours et le problème de maintenant pour l'Église en général, c'est qu'il n'y a pas où il n'y a plus de vase vide. Parce que s'il y avait encore des vases vides, Dieu les remplirait de son huile. Alors je vais vous dire, mais vraiment, avec mon cœur, je vais vous dire, et je vais poser cette question, mais pourquoi l'huile ne coule-t-elle plus aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ comme, par exemple, il y a quelques décades d'années? Moi, je suis encore l'un de ceux qui a connu en Normandie la fin du réveil spirituel. Croyez-moi, c'était un réveil puissant. Ah oui, oui. Quand le pasteur Douglas Scott faisait la recherche du Saint-Esprit, quand il avait prêché, il descendait l'allée centrale, il remontait l'allée centrale, ça durait une minute et demie, et puis des dizaines et des dizaines de frères et sœurs étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était la même chose avec les possédés. Ne faisait pas des réunions spéciales. Il descendait, il remontait, les gens tombaient, pas deux fois. Une fois, ça suffisait. Ils étaient délivrés. J'ai connu des guérisons, mais extraordinaires. Des guérisons par dizaines et dizaines. J'ai vu. Je me dis, mais aujourd'hui, on a perdu. Je ne dis pas qu'on a tout perdu, mais je dis qu'on a perdu. Et je pose la question, mais pourquoi l'huile ne coule-t-elle plus aujourd'hui? Alors, la réponse, je crois que je l'ai. Je vous l'ai dit, c'est parce qu'il n'y a plus de vase vide. Il faut que l'Église veille. Et il faut que l'Église fasse attention de ne pas connaître ce que Samson, en son temps, a expérimenté. Quand sa femme lui a dit pour la dernière fois, Samson, les adversaires sont devant toi, les Philistins sont sur toi. Samson s'est réveillé de son sommeil en se disant, je m'en sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. Il y a une chose que Samson ne savait pas, c'est que Dieu s'était retiré de lui. Il ne savait pas que le Seigneur s'était retiré de lui. Alors cette fois-là, les Philistins l'ont saisi, lui ont crevé les yeux. Ils l'ont emmené à Gaza, ils l'ont attaché avec des entraves de bronze. Et il a terminé sa vie en tournant la meule dans une prison. Ce matin, je veux m'examiner, d'ailleurs, les charismes l'ont exprimé, le pasteur l'a dit, ce matin, je veux m'examiner, je veux examiner mon vase et devant Dieu me poser la question, dans quel état est ton vase? Plein d'huile? Vide? Ou plein de bois? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui. Votre temple est rempli de quoi? Il est peut-être rempli de suffisance spirituelle. Après tout, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à apprendre, ni grand-chose à recevoir. On a des années de conversion. On a des décades d'années de conversion. On a fait toutes sortes d'expériences spirituelles. Je crois que ça serait grave de se contenter de ça. Il y aurait une anomalie de se contenter de cela. Ce matin, nous devons être dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit. Seigneur, remplis mon vase. Remplis-le à nouveau d'une huile fraîche. Je tiens absolument à être renouvelé dans le Saint-Esprit ou à être baptisé du Saint-Esprit. Et peut-être que la petite voix intuitive là, me dit, mais tu sais, avant que je remplisse ton vase, il faudrait peut-être le vider. Oui, vider de quoi? Eh bien, cette petite rancune que tu as là, cette petite rancune que tu as là, tu ne crois pas que ça gêne l'huile du Seigneur? Il y a des gens qui traînent des rancunes pendant des semaines, des mois, des années. Oh là là! Oui, mais ça, ce sont des obstacles. Le vase est plein, mais il n'est pas plein d'huile là. Peut-être que mon vase est rempli de mépris. Je méprise les autres. Je méprise l'assemblée. D'ailleurs, il n'y a pas d'assemblée qui soit bien. Alors, est-ce que je vais trouver l'assemblée qui me convient? Je méprise les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Peut-être même que je m'essuie les pieds dessus. Eh oui, je suis plein de mépris. Et tu voudrais que Dieu remplisse ton vase de son huile? Donc tu dois vider ton vase. Tu dois vider ton vase. Peut-être que tu es plein de médisance. Tu te plais plus à médire qu'à bénir. Voilà, le vase est plein. Il est plein, mais pas de bonnes choses. Il faut qu'il soit vidé. Peut-être que mon vase est plein de choses dont je me souviens, de choses que j'ai faites ou de choses qu'on m'a faites. et je ne peux pas pardonner. Je ne veux pas pardonner. Ça, c'est mortel, ça, c'est mortel. Je citais la semaine dernière dans une assemblée une triste expérience que j'ai faite. Je vais vous la dire pour vous montrer que on est tous sujets à des erreurs. Un jour, c'était pas un beau jour, j'ai eu un problème avec un collègue. Et en général, quand on a des problèmes, qui c'est qui a raison? C'est toujours soi, hein, on a toujours raison dans les problèmes. Nous, on a raison, et puis les autres, ils ont toujours tort. Non, c'est pas comme ça? Oh, oui, c'est comme ça. Il y a un problème dans le foyer, c'est moi qui ai raison, c'est le conjoint qui a tort. Il y a un problème dans le travail, eh ben, c'est le patron qui a tort, moi j'ai raison. Il y a un problème entre chrétiens, on a toujours raison. Et j'avais raison. Enfin, je pensais avoir raison. Et puis un jour, j'ai eu à cœur de chercher la face de Dieu. Et pendant, je passais presque toute une matinée devant le Seigneur. Et le Seigneur, il me disait, avec beaucoup de précaution, parce que quand on est dans un état comme celui dans lequel j'étais, il faut que le Seigneur ne brise rien. Alors le Seigneur m'a dit, mais tu en es où avec le frère Intel? Alors j'ai dit, Seigneur, mais tu sais que j'ai raison. Il a tort. Mais c'était certainement pas ce que je devais dire, parce que j'ai pas senti l'approbation de Dieu. Et puis le Saint-Esprit a continué en me disant, mais tu devrais quand même faire un effort. Et chercher à te rapprocher de ton collègue. C'est pas tout dans les conventions, quand il entre par une porte, que tu sors par une autre, toi. Faudrait peut-être remédier à cela. Alors, je me suis laissé un petit peu convaincre par le Seigneur, un petit peu convaincre. Je me suis dit, tiens, si tu faisais une petite bafouille, là, hein, un petit mot d'excuse. J'ai commencé à faire un petit mot d'excuse. Je pensais que c'était un brouillon. Mais en réalité, quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais t'as bâti une lettre, là. C'est une lettre. T'as pas besoin de recopier. C'est une lettre. Tu peux l'envoyer comme telle. Oh, je dis, non, c'est moi qui ai raison. Qu'est-ce qu'il va penser, le collègue? Il va dire à ceux qui connaissent le problème, voyez-vous, j'ai raison, c'est lui qui avait tort. Quand vous êtes pris dans la tenaille, dans cette tenaille-là, c'est terrible, c'est terrible. Mais le Saint-Esprit me disait, vide ton vase. Comme peut-être ce matin, il te dit, vide ton vase. Alors j'ai cédé, j'ai mis le papier dans une enveloppe, et puis je me suis retrouvé devant un bureau de poste. Et bien, jusque-là, la voix de la chair me disait, tu mets pas. tu mets pas. J'ai au moins des 5 minutes, tu mets pas. Et puis il y a une secrétaire qui est arrivée, là. Enfin je pense que c'est une secrétaire parce qu'elle avait un tas de lettres. Vous savez que je ne suis pas préoccupée si j'étais là, moi, tu mets pas. Elle a mis ses lettres, la mienne est partie avec les siennes, je ne peux plus la rattraper. Et je me suis dit, oh là là. Maintenant, il faut ouvrir le parapluie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je n'ai pas eu lieu d'ouvrir le parapluie, figurez-vous. Parce que quand mon collègue a reçu la lettre, il m'en a envoyé une autre. Et c'était plus dans des termes d'accusation, non. C'était dans des termes de pardon. Je te pardonne, tu me pardonnes. Et je crois que ce jour-là, mon ministère a été béni et le sien aussi.
Amen.
plus de vase. Il y avait des vases pleins, il n'y avait plus de vase vide. Vous savez, j'ai dit, je crois, hier soir, que Dieu avait des soucis. Il a des soucis, il a des problèmes, il les partage avec nous, ses soucis, ses problèmes. Par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit, « J'ai cherché parmi eux un homme. Je n'en ai pas trouvé. » Parmi des milliers de gens, Dieu dit, « J'ai cherché parmi eux un homme selon mon cœur. Je ne l'ai pas trouvé. » Et si ce matin le Seigneur disait, « Je cherche parmi vous un vase. » Un vase vide dans lequel je vais déverser mon huile, un vase que je vais pouvoir utiliser et qui va contribuer au bien de l'œuvre de Dieu et à l'avancement du règne de Dieu. Je cherche un homme, je cherche un vase. Cessons d'être léger avec Dieu. Il est possible que Dieu te cherche. Je voudrais vous rappeler un épisode biblique qui nous montre s'il y a lieu de faire, lorsque les vases sont pleins de toute autre chose que de l'huile, il y a quelque chose à faire. Il est dit par exemple en Genèse 26 que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, les questions d'Isaac, au jour d'Abraham, les Philistins les bouchèrent en les remplissant de terre, plus d'eau. Et vous savez ce qu'Isaac a fait? Il a creusé de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour d'Abraham son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il les a appelés du même nom dont son père les avait appelés et ces puits sont redevenus des sources bénies pour le peuple. Ce matin, Seigneur, dans ce culte, et à partir de ce moment précis, je tiens à ce que mon vase soit vide. Je tiens à te présenter, Seigneur, un vase vide. J'ai besoin que tu le remplisses, ce vase, que tu le remplisses de ta présence, que tu le remplisses de ton esprit. J'ai besoin, Seigneur, que tu déverses en moi ce qui est divin, ce qui s'appelle le trésor divin. J'ai besoin de cela, Seigneur. J'ai besoin de cela pour pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Dieu met en moi qui vit, qui a la primeur. Alors, cette femme a expérimenté une délivrance totale. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu ce qui s'était passé. L'homme de Dieu savait ce qui allait se passer, mais enfin, c'était bien qu'elle aille lui dire. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu lui dit? Réfléchissez encore à cela. Moi, j'ai réfléchi. Hein. Va vendre l'huile, paie ta dette. Et tu vivras normalement, comme avant, et mieux qu'avant. Toi et tes fils, tu vivras de ce qui restera. Elle expérimente une grâce totale, une délivrance totale. Disons qu'avec la grâce de Dieu, qui entre nous soit dit est irremplaçable, cette veuve fut capable de faire face à toutes les exigences du créancier. Et ses enfants ont été sauvés. Ses enfants ont été sauvés. Alors, si l'on avait demandé à ces garçons comment ils avaient été sauvés de l'esclavage, et dites les gars, vous allez rendre témoignage, hein? Comment avez-vous été sauvés de l'esclavage? Bien, je pense que ces garçons auraient dit à juste titre, On a été sauvés par le don de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est le don de Dieu. On est sauvés par le don de Dieu. Et nous, on est sauvés par quoi, nous? Par nos œuvres, hein? Ah non, ah non. On est sauvés par le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es sauvé, oui. Je suis sauvé par le don de Dieu. Femme, le miracle qui vient de se produire, c'est un approvisionnement quotidien pour ta vie. Ce n'est pas le miracle d'un jour, mais ce sera le miracle de toujours. Tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui restera. L'huile qui sauva cette veuve de ses dettes et de l'esclavage de ses enfants était également destinée à ses besoins, à leurs besoins quotidiens. Et je crois très, très sincèrement que le Christ n'est pas seulement venu pour nous racheter, pour nous sauver. Certes, il est venu pour cela, mais il n'est pas venu que pour cela. Mais il est venu également pour nous satisfaire au quotidien. Lui, le pain de vie. Lui, le pain de vie. Tu vivras de ce miracle qui est en toi. Et par ce miracle qui est en toi, tu vivras, toi et ta famille, avec ce qui restera. Je conclue, mes frères et sœurs, et je pense que on a fort bien compris ce que dit le Seigneur. Si nous sommes de ses brebis, mes brebis entendent ma voix. On a compris. Mais quand même, je me permets de faire une petite conclusion. Et ma conclusion personnelle, celle-ci, c'est que je ne veux pas connaître ce que dit l'Écriture en Matthieu 13, 58. Il est écrit, « Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Seigneur, je ne veux pas connaître cela. Je ne veux pas fermer la source de la grâce à cause de mon incrédulité. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, de me donner toujours la foi en toi, la foi dans ta parole, dans cette parole vivante, dans cette parole puissante. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Dis seulement un mot, Seigneur. Un mot. Prononce un mot. Il y aura un miracle. La parole de Dieu est puissante, mes frères et sœurs. Ne nous endormons pas là. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Et puis la deuxième chose, c'est que je veux tendre personnellement à une meilleure harmonie de communion avec le Seigneur et expérimenter, entre autres et au quotidien, ce passage de l'Écriture. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera point. Et la cruche d'huile ne se videra point. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, le Seigneur est celui qui remplit ton pot de farine. Il est celui qui remplit ta cruche d'huile. Il est celui qui prend soin de toi au quotidien, mon frère, ma sœur. Tu auras toujours de la nourriture avec lui. Tu ne seras peut-être pas riche comme Crésus, mais tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Ça sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel aussi, dans la mesure où ton vase sera vide. Le Seigneur le remplira. Ce matin, Seigneur, je viens non pas avec mes prétentions, je viens non pas avec ma suffisance devant toi. Seigneur, je, 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 Je pense ne rien avoir de mauvais dans ma vie. Je pense avoir tout confessé, t'avoir tout confessé. Je pense que tu as nettoyé le vase. Alors Seigneur, je viens avec mon vase vide, et je te prie, s'il te plaît, de le remplir. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de ton huile. Remplis mon vase. Vous voulez qu'on demande au Seigneur cette grâce exceptionnelle d'être visité d'en haut, d'être visité par l'Esprit Saint? Moi, je crois que ce matin, il veut le faire. Dans l'assemblée où j'étais dimanche dernier, je ne dirai pas où, je n'ai pas prêché sur ce thème, mais il y a eu entre 30 et 40 baptêmes du Saint-Esprit. Le Seigneur a rempli des vases vides. Et ce matin, il veut remplir ton vase vide, de son huile divine, que son Saint-Nom soit béni.